un podcast France Culture.
Après la relance et avant la régulation, suite de notre semaine consacrée à trois grands principes de gouvernement politique au moyen d'outils économiques, à moins que ce ne soit l'inverse. Difficile en effet de savoir ce qui relève du dogme, voire du mythe, dès lors qu'il s'agit d'intervention de l'État dans l'économie. Et de mythe, justement, il est question aujourd'hui, celui de la rigueur et de son tournant entamé en mars 1983, vécu comme la trahison originelle d'un parti socialiste alors au pouvoir, la pertinence d'une telle décision reste débattue encore aujourd'hui. Alors nécessité économique ou volonté politique, au nom de quoi déclenche-t-on un plan d'austérité? En quoi celui-ci consiste-t-il? Et que nous dit ce tournant des politiques d'austérité menées depuis? C'est parti pour une plongée au cœur des années 1980. Pour nous y guider, Fabien Éloire est avec nous en studio. Fabien Éloire, vous êtes sociologue, professeur à l'Université de Lille et membre du laboratoire Clercé, directeur de l'Institut des sciences sociales et de la Revue française de socio-économie. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Également avec nous à distance, l'économiste François Eckel. Bonjour François Eckel.
Bonjour.
Vous êtes le président fondateur de l'association d'information sur les finances publiques FIPECO, qui est l'acronyme de Finances publiques et économie. Un portrait de vous, publié hier dans Le Monde, vous qualifiez d'influenceur des finances publiques, revenant sur votre ancien statut d'ancien de Bercy et de la Cour des comptes. Une expérience qui nous sera assurément utile tout au long de cette émission. On commence tout de suite.
On retient un chiffre du chiffrage de Nicolas Sarkozy, 125 milliards d'euros sur 5 années, 46 milliards d'euros d'impôts et 79 milliards d'euros d'efforts sur les dépenses publiques. Si vous pensez qu'il faut de la rigueur, si vous pensez qu'il faut geler la dépense publique, si vous pensez qu'il faut plus de secteurs privés, qu'il faut réformer le marché du travail, qu'il faut conserver le parc nucléaire en l'état, votez Nicolas Sarkozy.
La différence entre la rigueur de droite et la rigueur de gauche, c'est qu'avec ces 20 milliards de dépenses supplémentaires, la rigueur de gauche va être beaucoup plus brutale.
Il n'y a pas de rigueur. Je veux dire, quand vous vous baladez en Europe et que vous voyez ce que les autres ont fait, on sait bien qu'il n'y a pas de rigueur en France.
Face à la crise, depuis 2008, il y a eu effectivement une réaction, en particulier en Europe, très rapide, malheureusement à partir de 2010, qui s'est généralisée, qui a consisté à dire on donne la priorité à la rigueur budgétaire pour rester sur notre trajectoire de réduction des déficits publics. Et donc notre seule stratégie de relance, c'est une stratégie de relance par la baisse des coûts. 50 milliards d'injections de dépenses publiques, moins 60 de l'autre côté, ça vous fait moins 10, ça vous fait une rigueur douce, c'est-à-dire un quinquennat Hollande bis. Voilà.
C'est-à-dire Macron, c'est de la rigueur douce,
c'est ça? Bah oui, c'est la rigueur douce.
En matière budgétaire, l'heure de la facilité est finie. Et le budget qui s'esquisse pour 2024 sera bien teinté de rigueur.
On entendait à l'instant dans ce mash d'extraits sonores qui date de 2012 à 2017, dans lesquels vous avez peut-être reconnu les voix de Valérie Pécresse, Alain Minc ou encore Jacques Généreux, rigueur de droite, rigueur de gauche, rigueur douce. Ce qu'on comprend, c'est que bien malin est celui qui parviendra à déterminer ce qu'est la rigueur, Fabien Éloire.
Ah oui, effectivement, quand on écoute ça, on a des difficultés à s'y retrouver. Peut-être revenir sur la notion de rigueur. C'est vrai que c'est toujours bien quand on réfléchit sur une idée, c'est de revenir au vocabulaire. La notion de rigueur, bah, finalement, quand on parle d'un de ses collègues et qu'on dit qu'il est rigoureux, on a tendance à
c'est une qualité.
C'est plutôt positif de travailler avec quelqu'un qui est rigoureux. Mais même si on pense à son comptable et qu'on veut gérer un budget, on est content d'avoir quelqu'un de rigoureux. Donc finalement, c'est vrai qu'il y a un peu une inversion de cette notion de rigueur dès lors qu'elle arrive dans le champ politique. Et donc cette rigueur, effectivement, est devenue une sorte de mot-clé qui a été vu a posteriori, sans doute négativement, par un camp politique. Et c'est généralement du côté gauche qu'on va regretter la rigueur ou la critiquer, et peut-être du côté droit être plus conciliant en disant qu'il en faut et que c'est nécessaire. Donc c'est peut-être ce mystère-là qu'on peut essayer d'élucider.
C'est en effet ce qu'on va essayer de faire. François Eckel, à entendre ces extraits, c'est que la rigueur est toujours conspuée quand c'est le camp d'en face qui l'amène.
Oui, après, moi, je suis un peu mal à l'aise avec ce terme de rigueur, parce que je, d'un point de vue économique, je n'en connais pas vraiment de définition, sauf à considérer que toute politique budgétaire visant à réduire le déficit public, soit en réduisant les dépenses, soit en augmentant les impôts, est une politique de rigueur. Mais comme vous l'avez, enfin comme on vient de le dire, ce politique de rigueur, c'est souvent une critique qui est faite plutôt à gauche. Alors si on réduit le déficit public en augmentant les impôts sur les riches, est-ce que c'est encore une politique de rigueur? Je n'en suis pas sûr. Et donc j'ai l'impression que c'est un adjectif qui est utilisé de manière variable en fait, mais et de manière en fait assez subjective. Après, c'est vrai que l'expression rigueur a été employée, vous l'avez cité en introduction, au moment de, en 1983, on a parlé du tournant de la rigueur, mais c'est, enfin, pour moi, c'est un terme politique qui n'est pas très bien défini en réalité.
Et du reste, on ne sait pas vraiment le distinguer de l'austérité, par exemple.
Non, je ne sais pas. Je ne sais pas mieux définir ce qu'est une politique d'austérité. À nouveau, à part sauf à dire que toute politique de réduction du déficit public est une politique d'austérité, mais je pense que ceux qui parlent d'austérité à ce moment-là ne qualifieraient pas d'austérité une politique visant par exemple à augmenter, à rétablir l'impôt sur la fortune ou ce genre de choses. Et pourtant, ça serait une politique de réduction du déficit. Donc, je pense que derrière, voilà, c'est une politique de réduction du déficit, mais par des moyens que on n'approuve pas, que ceux qui prononcent le mot austérité ou rigueur n'approuvent pas.
Lorsque le gouvernement s'est constitué en novembre dernier, il avait à faire face à un certain nombre de problèmes graves sur le plan économique et sur le plan financier. Songez qu'un déficit de 958 milliards pour le budget de 1957 continuait à nourrir l'inflation, que la simple projection de ce même budget sur l'année 1958 aurait entraîné un déficit de 1400 milliards. L'hémorragie des dépenses publiques a été arrêtée. Pour y parvenir, le gouvernement a demandé au Parlement de respecter deux plafonds. Le premier a limité à 5300 milliards le volume des dépenses pour 1958 et le second a fixé à 600 milliards le montant des sommes que le Trésor pourrait financer par ses propres ressources.
Et quel est l'esprit qui a présidé à l'établissement du budget 1958?
Deux mots, à mon avis, le résument: rigueur et choix. Le budget 1958 est tout à la fois celui de la rigueur retrouvée et de la primauté reconnue aux exigences fondamentales de la nation.
On entendait là un extrait d'une interview de Jean Le Canuet en mars 1958. Il était alors conseiller du ministre des Finances, des Affaires économiques et du Plan, qui était Pierre Philmin à l'époque. Fabien Éloire, vous avez étudié de près les années 80, c'est même l'objet de votre thèse. C'est une décennie marquée par le fameux tournant de la rigueur et ce sera tout l'objet de notre émission. Mais est-ce qu'on peut vraiment dire qu'avant ce fameux tournant, on n'avait jamais entendu parler de rigueur en France, Fabien Éloire?
Non, je pense pas. Et l'extrait le montre bien. D'ailleurs, par rapport à ce que j'ai raconté sur les questions de vocabulaire, on voit bien que ici le mot rigueur a plutôt une connotation positive dans la bouche de l'interlocuteur. Effectivement, si on veut essayer de comprendre, il faut peut-être justement revenir sur l'autre terme dont vous avez parlé, qui est le terme austérité. Le terme austérité, en réalité, il est utilisé par les adversaires de la droite au pouvoir avant les années 80 pour évoquer la politique qui est menée par le gouvernement Raymond Barre et qui est effectivement une politique d'austérité ou de rigueur budgétaire, si vous voulez, avec l'idée qu'on doit à tout prix limiter les dépenses publiques. Donc moi, ce que je dirais sur la notion d'austérité ou de rigueur, c'est que c'est un peu les mêmes mots, mais qui sont utilisés de manière critique. À partir du moment où la gauche arrive au pouvoir en 80 et qu'elle doit commencer à faire des politiques dans lesquelles elle essaye de maîtriser, on va dire, les dépenses publiques, eh bien, elle va plutôt parler de rigueur pour ne pas être taxée d'austérité comme le pouvoir précédent. Et c'est comme ça que le mot rigueur arrive sans doute sur le débat politique, et ensuite il sera repris et à nouveau critiqué. Et on va le voir peut-être après, mais il y a des nouveaux mots qui émergent dans ce vocabulaire qui concerne en fait les questions budgétaires.
François Eckel, au-delà des époques, des contextes ou des intentions politiques, qu'est-ce qui déclenche la nécessité de mettre un peu de rigueur justement dans les comptes? Est-ce qu'il y a un signal d'alarme? Est-ce qu'il y a des indicateurs qui tirent la sonnette d'alarme et ne trompent pas et impliquent effectivement de rentrer dans une politique de rigueur?
Alors, c'est une question très difficile, c'est la question fondamentale en matière de finances publiques, parce que c'est la question est aussi jusqu'à où est-ce qu'on peut s'endetter. Et il n'y a pas de réponse, parce que ce qu'on peut craindre lorsque un pays s'endette trop, c'est qu'à un moment ou un autre, les créanciers prennent peur, se mettent à ce moment-là à demander des taux d'intérêt beaucoup plus élevés, ce qui aggrave la crise, aggrave le déficit, et finalement se termine par une crise dans laquelle l'État arrête de payer ses fonctionnaires ou est obligé, ce qui est en général le cas, de passer un accord avec ses créanciers et à prendre des mesures de redressement drastique. Donc on veut éviter ça, mais le problème, c'est que en effet, c'est très difficile de trouver des signaux, comme vous dites, qui permettent de dire on approche de ce moment. Parce que ça dépend de facteurs qui parfois sont très subjectifs et qui dépendent fortement, qui sont spécifiques à chaque pays et à chaque période. Dans le cas de la France, là, on a reparlé là de la rigueur qui a été instaurée en 83. On s'est retrouvé, on va en reparler plus, je pense, mais on s'est retrouvé en 82-83 dans une situation où l'endettement français était beaucoup trop important et on n'avait plus, on éprouvait de très grandes difficultés pour se financer, et donc on a été obligé de mettre en œuvre ce tournant de la rigueur, alors même que la dette publique à l'époque, elle ne représentait que 20% du produit intérieur brut, et qu'aujourd'hui, elle a atteint plus de 110% du produit intérieur brut, et aujourd'hui, on peut se financer sans problème. Mais la situation est très différente. À l'époque, il n'y avait pas l'euro, il n'y avait pas la Banque Centrale Européenne, on était obligé d'emprunter en dollars, alors qu'aujourd'hui, on emprunte dans une monnaie qui n'est pas tout à fait la nôtre, mais presque, qui est l'euro. Donc les conditions sont pas du tout les mêmes. Et donc on peut aujourd'hui être beaucoup plus endetté qu'on ne l'était à cette époque.
Alors on le comprend, il y a des facteurs spécifiques à chaque situation avec des indicateurs différents, et c'est la raison pour laquelle nous avons choisi de nous concentrer sur le fameux tournant de la rigueur de 1983 aujourd'hui à Entendez-vous l'écho. Mais avant de parler justement de ce tournant, il faut bien comprendre dans quelle situation se trouvait la France juste avant l'élection de François Mitterrand.
Il faut que nous comprenions que la raison essentielle de la situation que nous connaissons tient en une seule formule. La France vit au-dessus de ses moyens. Les revenus augmentent plus vite que la production. Le crédit est distribué d'une manière trop abondante. Les dépenses de l'État excèdent ses recettes et le déficit du budget sera cette année de l'ordre de 15 milliards de francs, ce qui est déjà un progrès par rapport au déficit de l'an dernier de 35 milliards de francs. Notre commerce extérieur est en déséquilibre, et en dépit de la progression de nos exportations, les conséquences de la sécheresse ont aggravé ce déséquilibre. Le déficit du commerce extérieur sera cette année supérieur à 10 milliards de francs. Enfin, la sécurité sociale n'est pas en mesure de faire face à ses échéances de fin d'année ni à ses obligations pour l'an prochain, et il faut trouver environ 15 milliards de francs.
La France vit au-dessus de ses moyens, déclarait très solennellement Raymond Barre en septembre 1976. Il était alors Premier ministre de Valéry Giscard d'Estaing. Fabien Éloire, dans quel état est le pays à la toute fin du septennat de Valéry Giscard d'Estaing ?
Oui, c'est vrai que c'est un point important d'évoquer cela, puisque c'est vrai que les socialistes, lorsqu'ils arrivent au pouvoir, ils arrivent dans une situation qui est en réalité assez difficile du point de vue économique. Donc ils n'héritent pas d'une situation simple pour eux. Donc eux ont un programme avec un certain nombre de solutions qu'ils vont dans un premier temps mettre en œuvre. On pourra en parler, qui est un programme justement de relance de l'activité. Mais c'est vrai qu'ils le font dans un cadre spécifique où, si on regarde les chiffres, je vais pas abreuver de chiffres, je les connais pas non plus par cœur, mais on voit un effet vraiment récessif de l'économie. L'économie française est en train de se contracter pendant toute la fin de la décennie 70.
Voilà. Et justement, face à cette contraction-là, le son daté de 1976, l'élection de François Mitterrand, c'est 1981. Entre les deux, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il y a des politiques qui sont menées pour tenter de redresser la barre ?
Oui, en fait, il y a une relance de l'économie en 1975, donc c'est intéressant, puisque c'est une relance qui est, quand on regarde rétrospectivement les chiffres qu'on a tout à fait aujourd'hui, on voit qu'elle a été même plus importante que celle qui a été réalisée en 1981, donc elle avait été réalisée par Jacques Chirac, si je ne me trompe pas, ensuite, la politique de Raymond Barre, bon, il est très connu hein, comme économiste pour, quand on parle de la politique barriste, c'est vraiment une politique d'austérité budgétaire et de réduction, comme il l'a dit, en fait, des déficits. Quand il regarde l'économie, il regarde un certain nombre d'indicateurs que sont, il a cité, hein, je redis, hein, mais un crédit trop abondant, un déficit du commerce extérieur, un déficit en général qui se développe, ce qui est un peu une nouveauté, puisque le déficit de la France, en fait, commence à se développer dans la fin des années des années 70. Donc c'est aussi une nouvelle variable, en fait, qui émerge et qui est pas encore aussi importante qu'on peut la voir aujourd'hui. Par exemple, dans les toutes les archives, on n'a pas encore parlé de comment j'ai travaillé, mais dans toutes les archives que j'ai pu faire, le déficit au sens de la dette publique n'est pas la variable centrale du débat de 1981-83.
Et quelle est la variable centrale ?
La variable centrale, c'est celle du commerce extérieur, mais il y en a d'autres. Il y a aussi la variable de l'inflation, la croissance et le taux de chômage. Ce sont vraiment ces quatre variables-là qu'on retrouve dans les notes des conseillers des différents ministres et présidents aussi. C'est vraiment les principaux indicateurs qu'ils regardent, et ils ont des tableaux de bord, en fait, qu'on peut retrouver dans leurs archives avec l'évolution de ces indicateurs.
Alors justement, François Haeckel en parlait de l'inflation qui fait partie des indicateurs phares pour mesurer la santé de l'économie française à l'époque. Entre août 1976 et mai 1980, soit durant toute la durée des fonctions de Raymond Barre, l'inflation passe de 9,6% à 13,6%. Est-ce que c'est quelque chose auquel on sait faire face à l'époque, François Haeckel ?
Alors, il faut d'abord rappeler qu'en 1973, on venait de passer une trentaine d'années qu'on a appelé après les 30 glorieuses de croissance relativement forte, où l'inflation était assez sensible et où on alternait des périodes où l'inflation accélérait un peu, on ralentissait ensuite un petit peu l'activité, mais globalement on était dans une période de croissance forte et d'inflation modérée. et d'excédents budgétaires. On avait des comptes publics en excédent. Et tout ceci s'est terminé avec le premier choc pétrolier dans les années en 74-75. On a une récession, ce qu'on ne connaissait pas depuis longtemps. Et puis, je dirais, comme on l'a vu encore très récemment, une hausse des prix de l'énergie très forte qui, à cette époque, en fait, s'est traduit par une inflation qui est restée persistante. Donc on a eu, alors comme vous l'avez dit, on l'a dit tout à l'heure, il y a eu une politique de relance qui a été menée par Chirac en 75, mais qui a eu plutôt tendance à accélérer l'inflation et à aggraver la situation de déséquilibre de nos échanges extérieurs. Puis ensuite Raymond Barre est arrivé, a essayé de, je dirais, d'inverser le mouvement. Avec une politique qu'on peut peut-être qualifier, qu'on qualifiait déjà un peu à l'époque de politique plus rigoureuse, disons. Mais à la fin des années 70, c'est vrai qu'on était encore dans une situation d'inflation forte. On n'avait pas retrouvé le niveau de croissance des 30 Glorieuses, et on ne le retrouvera jamais d'ailleurs. C'était un peu illusionné à l'époque sur la possibilité de retrouver ce taux de croissance. Et on avait un peu rétabli les comptes publics et les échanges extérieurs, mais ça restait très fragile, notamment parce que au tournant des années 80, on a eu un deuxième choc pétrolier aussi qui a eu tendance donc à nouveau à raviver, à renforcer encore l'inflation et à déséquilibrer encore plus nos échanges extérieurs.
Et c'est donc
on se retrouve dans cette situation en 80 avec une inflation qui reste forte, une croissance qui est pas terrible et un déséquilibre des comptes publics auquel on n'était pas habitué, qui est arrivé pour la première fois au milieu des années 70, et des échanges extérieurs qui étaient déséquilibrés aussi, et donc dans une situation qui n'était pas très bonne, à partir de laquelle le nouveau gouvernement qui va arriver au pouvoir en 81, on va sans doute en reparler.
Effectivement,
c'est avoir tendance à aggraver cette situation.
C'est dans ce contexte en demi-teinte que François Mitterrand arrive au pouvoir.
20h. 5, 4, 3, 2, 1. François Mitterrand est élu président de la République. Nous répétons donc, estimation C2IN et Welbull, Monsieur François Mitterrand est élu président de la République.
Les résultats qui me sont communiqués à l'heure où je m'exprime annonce que les Françaises et les Français ont choisi le changement que je leur proposais.
Alors il n'est pas 20h, vous êtes bien sur France Culture et le président de la République est toujours Emmanuel Macron. Mais le 21 mai 1981, François Mitterrand est lui élu président de la République et il est élu sur la base d'un programme dont les promesses sont ambitieuses et ont tout l'air d'une relance. C'est ainsi qu'on peut le qualifier, Fabien Éloire.
Alors, ce ne sont pas des promesses. Alors, ce sont effectivement des promesses électorales, puisque c'est dans un programme. Mais dans le programme des 110 propositions, il est bien indiqué la relance de l'économie. Donc, le mot est vraiment inscrit dans le programme. Et il y a un certain nombre de mesures qui sont prises dès les premiers moments, en fait, de mai-juin, juillet, pour effectivement un programme de relance avec la volonté de faire repartir l'activité avec une hausse du SMIC, avec l'embauche de fonctionnaires, donc de la dépense publique pour relancer l'économie, pour aussi on est dans la politique, il faudra sans doute réinsister là-dessus, mais on n'est pas que dans l'économie, et encore aujourd'hui d'ailleurs on n'est jamais que dans l'économie quand on fait de la politique économique, et donc on est aussi là pour trancher avec le pouvoir précédent et montrer qu'on a une autre politique.
Une hausse du SMIC, des embauches de fonctionnaires sur le papier, François Eckel, quand vous entendez un pareil programme, qu'est-ce qui vous vient en tête spontanément, même si vous connaissez la suite de l'histoire ?
La suite de l'histoire, oui, ce que je me viens en tête, c'est en effet c'est la suite de l'histoire, c'est-à-dire c'est une politique qui tend à aggraver le déficit public, donc à relancer l'activité par une augmentation du déficit dans une logique très keynésienne. Et c'est une politique qui tend à dégrader la compétitivité. Vous augmentez les salaires, vous avez plutôt tendance à dégrader la compétitivité et donc à aggraver le déficit commercial. Et donc, certes, ça a des effets favorables à court terme sur l'activité, l'emploi, etc. Mais la suite de l'histoire, on la connaît, on va en reparler. C'est qu'à un moment, on n'était plus capable de financer à la fois ce déficit public et ce déficit extérieur, qui à l'époque se confondait largement, parce que en fait, il y avait un contrôle d'échange. Et donc c'est l'État qui procurait des devises, des dollars aux entreprises pour importer du pétrole, des matières premières, etc. Et donc la dette publique était assez largement une dette en devises. Et à un moment, on ne pouvait plus emprunter.
Plus personne ne voulait prêter.
Il n'y avait pas de marché financier. On empruntait auprès de banques qui étaient surtout des banques américaines. À un moment, ces banques américaines ont dit qu'elles ne voulaient plus prêter à la France. Et donc, on ne pouvait plus payer nos importations. Et c'est la principale raison pour laquelle on a été amené à ce tournant de la rigueur.
Fabien Éloire, c'est peut-être là où il faut insister sur l'aspect très politique, finalement, de ces décisions-là. Au-delà de la pertinence d'engager un plan de relance cette année-là, dans ce contexte économique qu'on a essayé d'esquisser jusqu'ici, l'idée c'est vraiment de défendre une certaine vision aussi de la politique qui passe par des politiques économiques. C'est quand même la première fois qu'on a un parti socialiste au pouvoir. Et ça explique en fait beaucoup de décisions qui ont été prises par la suite.
Je voudrais juste rappeler que en 75, on n'était pas sous le parti socialiste et on avait une relance.
Le contexte n'était peut-être pas le même.
Ce sont des politiques qui ne sont pas forcément extraordinaires. Il y a des mécanismes macroéconomiques qui font que quand on relance l'activité par de la dépense publique, ça fonctionne. Et d'ailleurs, c'est ce que disent en fait les conseillers dans les cabinets, les gens qui analysent les statistiques quasiment au jour le jour. En fait, ils indiquent que les effets de la politique de relance sont bien là, sont bien présents, et évidemment ils se heurtent à plein d'autres problèmes dont on peut parler, puisqu'on peut jamais gérer l'ensemble d'une politique avec une seule mesure, mais il faut reparler aussi de ce qu'est une politique économique. Mais les conseillers sont inquiets, mais sont plutôt contents des effets qu'ils ont sur la croissance, sur l'emploi, au moment où ils mènent cette politique.
Vous savez combien il reste au compte courant ?
Non.
60 000. 6 briques.
France Culture.
Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Il y aura du coulage ?
Du coulage ? Oh, c'est bien plus simple. Il n'y a que l'argent qui devait rentrer sous Vitaine n'est toujours pas rentré.
Entendez-vous l'écho ?
Il n'y a que l'éducation de la princesse, cheval, musique, peinture, etc. Atteint un budget élyséen. Hein ?
Aliette Ovine.
Fabien Éloire, vous nous parliez justement à l'instant des conseillers qui entourent François Mitterrand et qui participent à l'élaboration de ces politiques économiques. Comment se structure finalement cette vision des politiques à mener ? Qui sont les fonctionnaires, les hauts fonctionnaires qui remplissent les cabinets, qui conseillent François Mitterrand à cette époque-là ?
Oui, alors ça c'est intéressant. C'est ce qu'il faut avoir en tête, c'est que quand un nouveau pouvoir arrive dans les bureaux de l'État et du gouvernement, eh bien ce ne sont pas que des ministres en fait qui arrivent. Il y a tout un entourage, il y a tout un jeu de cooptation, d'un personnel politique dont on entend peu parler. On en entend un petit peu parler parfois dans l'actualité, mais c'est assez rare. Il faut souvent tendre l'oreille et être au courant de cela. Donc là Effectivement, il y a le personnel politique, les gens qu'on connaît déjà. Il y a Delors, il y a Bérégovoy, Bérégovoy pas encore ministre, mais qui le deviendra bientôt. Il y a Rocard, il y a ces personnalités, Chevènement, Fabius, mais il y a aussi donc tous ces gens qu'il nomme en fait et qui vont fabriquer constituer leur entourage. Alors ces gens peuvent être assez divers, donc c'est intéressant de regarder leurs caractéristiques sociologiques. Par exemple, de voir que lorsque les cabinets du nouveau gouvernement de gauche se mettent en place, on n'a pas un changement fondamental sociologiquement des gens qui sont dans les cabinets. Cependant, on a effectivement un peu moins de la haute fonction publique qu'on en avait sous la droite. On a peut-être plus des administrateurs civils plutôt que des inspecteurs des finances. Et on a donc un personnel qui est peut-être plus proche de la gauche, même si effectivement, du point de vue des caractéristiques sociologiques, on retrouve quand même des similarités entre la droite et la gauche. Je vais juste expliquer que quand on fait de cette cooptation pour constituer son cabinet, on va rechercher à la fois des conseillers extérieurs à l'État qu'on connaît, qu'on a dans nos amis, notre entourage professionnel par exemple, mais aussi des gens dans la haute fonction publique qui sont en train de faire carrière en fait, hein, dans la grande bureaucratie de l'État, et qui vont, grâce à leur passage en cabinet, bénéficier d'un coup de boost sur leur carrière. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on voit sociologiquement. Donc on a ce personnel, et ces conseillers, ils ont une influence aussi sur les politiques avec qui ils discutent.
Exactement, justement. Pour revenir à notre situation, on a donc ce plan de relance qui est prévu par François Mitterrand, vous l'avez évoqué avec certaines largesses, on va dire. Et à un moment, entre ce moment de 81 et ce tournant de la rigueur en 83, qu'est-ce qu'il se passe? Comment s'opère la prise de conscience, justement, dans cet entourage du président Mitterrand? Est-ce que, finalement, ce tournant de la rigueur, en tout cas cette amorce qui commence dès 1982, voire un peu avant, est-ce qu'elle s'est faite dans le conflit? Et est-ce que c'est ça qui a empêché de prendre une décision claire et rapide?
Oui, en fait, c'est pour ça qu'on parle de tournant et que c'est sans doute resté, parce qu'il y a une controverse aussi derrière, au-delà des mesures, en fait. Je pense qu'il y a eu des dissensions, des discussions qui ont ébranlé aussi le sommet de l'État, puisque Pierre Mauroy, qui était Premier ministre, il y avait différentes options. Il y avait des options. Il pouvait sauter, il pouvait rester en place. Donc il y a beaucoup de choses qui se sont jouées politiquement. Mais ce qu'il faut bien rappeler, c'est que le Parti socialiste est diverse. Il est pas aligné dès les élections sur la même politique. C'est-à-dire que il y a des conflits, il y a des positions à l'intérieur du parti. Alors il se trouve que après ça se règle avec les élections, avec les congrès, avec les motions, tout un ensemble de choses qui font que François Mitterrand devient le candidat. Mais il y avait d'autres possibilités, il y avait d'autres options, il y avait d'autres personnalités. Et donc, François Mitterrand fait la majorité, et ensuite, il fait l'alliance avec les différents courants du Parti Socialiste pour pouvoir gouverner avec l'ensemble du spectre du Parti Socialiste. Mais il est vrai que tous les membres du Parti Socialiste ne sont pas pro-relance, qu'il y a des ministres, il y a des conseillers qui ne sont pas forcément pro-relance et qui mettent en œuvre la politique de relance, mais qui n'y sont pas forcément favorables et qui attendent aussi leur heure. Et c'est aussi ce qui se passe à l'intérieur des cabinets et dans les jeux politiques.
François Eckel, ce qu'on comprend, c'est qu'il s'agit évidemment aussi de visions politiques qui se confrontent les unes les autres. Mais au-delà de ça, la réalité économique du pays doit quand même être prise en compte. Quelles conséquences ont eu cette fameuse relance, et est-ce qu'elle justifiait à vos yeux l'idée d'une pause dans les réformes puis d'un tournant de la rigueur?
Oui, mais alors pour comprendre le débat qu'il y a eu à cette époque, je pense qu'il faut revenir 10 ans en arrière. En 71, le président Nixon aux États-Unis a pris une décision qui a eu des répercussions fondamentales dans l'ensemble du monde, qui grosso modo, enfin on date de cette époque, le moment à partir duquel les taux de change se sont mis à flotter librement entre les monnaies. Bon. Or, en Europe, on avait créé un marché commun, et à partir du moment où l'échange, le taux de change entre le franc, la lire, le mark, le florin, etc., pouvait varier de 10% quasiment d'un jour à l'autre, on s'est très vite rendu compte que c'était incompatible avec l'existence d'un marché commun. J'ajoute même que la première grande politique commune européenne, c'était la politique agricole commune. Et à cette époque, la politique agricole commune, elle consistait à fixer un prix unique dans l'ensemble de l'Europe, un prix garanti aux agriculteurs. Bon, il y avait des organismes qui achetaient du blé ou des ou d'autres céréales ou du lait, voilà, pour maintenir ces prix. Et ce prix, il était supposé être le même, en tout cas converti avec des parités fixes dans tous les pays européens. Tout ceci ne pouvait pas fonctionner avec des monnaies qui variaient au gré de la spéculation, parce que le marché d'échange est très spéculatif. Donc dès 71-72, les Européens se sont décidés ensemble d'essayer de maintenir des taux de change les plus stables, les plus fixes possibles entre les monnaies européennes. Ça a été une constante de la politique européenne et de la politique française depuis cette époque, extrêmement forte et très déterminante pour beaucoup de choses. Donc on essayait de maintenir des parités communes, mais on avait beaucoup de mal, parce que l'inflation était plus forte en France, donc la compétitivité de la France se dégradait, et donc en permanence, il fallait dévaluer, et les marchés spéculaient à la dévaluation du franc. Voilà. Donc en 80-82, donc on a pris des mesures de relance qui ont conduit à aggraver le déficit public et le déficit extérieur, et ça a conduit les marchés à spéculer à la baisse du franc, ce qu'on voulait éviter. Mais pour empêcher la monnaie française de se dévaluer, il y avait une première solution à nos problèmes de financement à l'époque, qui était de continuer, prônée par un certain nombre de gens dans le gouvernement à l'époque, qui consistait à dire on va dévaluer encore une fois, et puis à la limite on va sortir du système monétaire européen. Mais si on avait fait ça, on aurait continué dans ce processus de dévaluation, d'inflation, la dévaluation renforçant l'inflation entraînant de nouvelles dévaluations qui in fine se traduisaient par des pertes de pouvoir d'achat, des pertes de compétitivité, et on n'arrivait jamais à rétablir nos échanges extérieurs. Donc il y a des gens qui ont proposé, en effet, à Mitterrand à l'époque, il y a eu un débat très fort, qui proposait cette solution, d'autres au sein du gouvernement et au sein des cabinets ministériels, etc., ont dit non, il faut qu'on maintienne le franc stable. Pour ça, il faut arrêter cette politique de désinflation, cette politique qui conduit à plus d'inflation et à plus de déficit, et donc il faut prendre des mesures visant à restaurer, à limiter le déficit public. C'est à cette époque d'ailleurs que Mitterrand, au début de 83, a dit dans ces conditions-là, le déficit public ne dépassera plus jamais 3% du PIB. Se trouve qu'à l'époque, le déficit public était à peu près 100 milliards de francs, et que 100 milliards de francs, c'était à peu près 3% du PIB. Ce 3% du PIB, on l'a retrouvé plus tard dans le traité de Maastricht. Les Allemands voulaient une règle de limitation du déficit, et les Français ont dit, nous, on en a une, de règle. Mitterrand, c'est la règle de Mitterrand, qui a été décidée en 83. Le déficit public ne doit pas dépasser plus de 3% du PIB. Mais voilà. Donc, c'était soit cette politique-là, de ce tournant de la rigueur, soit sinon c'était on continue dans les dévaluations et l'inflation, et in fine le système monétaire européen éclate parce qu'il n'est pas tenable, et si le système monétaire européen et si les monnaies européennes se mettent à fluctuer dans tous les sens au gré de la spéculation, bah en fait, c'est la fin du marché commun. Et c'est la fin du marché commun, c'est la fin de l'Europe.
Alors, on va voir hein, quel héritage encore aujourd'hui nous avons reçu de ce fameux tournant de la rigueur, et surtout quelle forme il a pris et quelles conséquences il a eu. On en parle tout de suite après le titre « Adieu Paris » des Fils de Joie, sorti en 1982 et qui évoque à sa manière le spleen des années 80.
La tour Eiffel, la tour Montparnasse, la corde ou le gaz, c'est un problème auquel oh 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 je réfléchis oh 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 oh. Un assassin
Rigueur, l'âme des années 80, c'est le sujet d'Entendez-vous l'écho aujourd'hui sur France Culture, une émission réalisée par Françoise Le Floch et mise en onde par Sébastien Royer. Nous sommes toujours en compagnie de l'économiste François Eckhall et du sociologue Fabien Éloire. Alors, entouré de voisins partisans d'un certain néolibéralisme, la politique du relance issue des promesses de campagne de François Mitterrand et sans doute aussi d'un certain idéal politique ont grévé un budget désormais déficitaire, comme nous disait François Eckhall. C'est l'heure des grandes décisions, comme l'annonce Jacques Delors le 23 mars 1983.
Nous ne pouvons pas continuer à consommer plus que nous produisons, à acheter plus que nous ne vendons à l'étranger. Depuis 3-4 ans, la France est dans cette situation. Il faut que cela change et vite. Il y va de notre indépendance nationale, de la préservation de notre niveau de vie et de la réussite de l'effort que nous faisons pour moderniser notre appareil de production afin de demeurer dans le peloton de tête des nations. Nous avons conçu ces mesures le plus possible en diminuant les déficits publics, le moins possible en demandant directement aux revenus des ménages. Nous avons totalement épargné les revenus les plus modestes. Nous sommes donc toujours dans le droit fil de l'esprit de solidarité qui caractérise la politique du gouvernement depuis mai 1981.
Fabien Éloire, qu'est-ce qui pousse Jacques Delors à endosser ce discours-là et quelles sont les mesures dont il parle?
Oui, mais peut-être avant revenir sur pourquoi Jacques Delors endosse en fait ces mesures. Il est clair, comme je le disais tout à l'heure, qu'il n'est pas du même bord que...
C'est une autre école.
Voilà, de la même école, on va dire. C'est le même bord socialiste. Ça, il n'y a pas de d'ambiguïté. Mais pas du même courant, on va dire. Et la possibilité qu'il a eue en mars 83 de faire une politique qui est plus conforme à ce que lui pensait... Il n'a pas hésité, il a même plaidé pour ça. Il faisait partie des partisans de la politique qu'on appelle aujourd'hui de rigueur. Donc, quelle était cette politique? En fait, c'était d'évaluer donc une dernière fois le franc, puisque ce sera la dernière dévaluation, et de prendre des mesures de plan de rigueur sur avec une baisse des dépenses de sécurité sociale et quelques autres mesures comme celle nouvelles-là pour réduire un petit peu les dépenses publiques.
Vous parliez justement de ces deux écoles et il y a un point sur lequel on n'est pas vraiment revenu dans cette émission alors qu'il est pourtant d'importance, c'est qu'il y a un contexte économique et politique plus global aussi concernant nos voisins européens et même plus lointains, puisqu'il faut rappeler qu'en 79, Margaret Thatcher devient Premier ministre au Royaume-Uni, Reagan est élu président aux États-Unis en 81. Il y a une sorte de dogme qui se forme à ce moment-là, selon vous, Fabien Éloire?
Oui, alors c'est plus compliqué que ça, parce qu'aujourd'hui, j'imagine que vous voulez parler du néolibéralisme. En réalité, les socialistes arrivent au pouvoir dans un contexte, on l'a dit, compliqué du point de vue économique. Et puis, leur programme, il se retrouve aussi à contre-courant de ce qui se passe dans les pays anglo-saxons, les principaux pays qui domine l'économie mondiale. Et donc, c'est vrai que c'est on peut la dire aussi que c'est pas de chance, d'une certaine façon. Mais comme je l'ai dit, la politique de relance, elle fonctionne. En fin 81, il y a déjà des effets, et en 82 aussi. Mais la politique de relance, elle a aussi une difficulté qui est que il y a une difficulté qui est l'inflation, qui est que la dévaluation qui était prévue et qui aurait dû accompagner de manière plus importante en fait cette politique n'a pas été faite dès le départ en mai 81 pour différentes raisons qui sont aussi des raisons politiques. Donc si on peut revenir en arrière, en fait les pays se sont entendus, donc avec la direction du Trésor français et puis les autres pays européens pour construire un système monétaire européen dans lequel en fait ils ont expliqué, comme le disait François Eckhall, hein, qu'il y avait des difficultés de parité entre les monnaies. Eh bien, ce système monétaire européen visait en fait à négocier à ce que les pays puissent négocier entre eux des dévaluations. Mais ces dévaluations, en réalité, quand elles sont négociées, elles sont évidemment beaucoup moins importantes que ce qu'aurait besoin, ce qu'aurait pu faire le pays et ce qu'aurait eu besoin en réalité la France au moment où elle l'a menée.
Sauf que ce système monétaire européen, c'était une certaine idée de l'Europe qui était chère à François Mitterrand.
Exactement. Et donc, tout au long son début de septennat, il faut aussi comprendre les décisions, non pas uniquement en termes économiques, par exemple, comme des problèmes de dette, etc., dont on vient de parler, qui sont importants,
c'est sûr,
mais surtout en termes politiques et comme une manière pour la France de donner des signaux à la politique franco-allemande et à l'Europe.
Et alors justement, François Mitterrand porte haut dans ses discours cette idée de communauté européenne, on l'entend tout de suite.
Cette inflation, c'est une triste histoire qui a commencé avec le choc pétrolier de 1973. Ceux qui gouvernaient à l'époque ont vu le franc perdre en 7 ans 40% de sa valeur par rapport aux marques. Et nous avons dû à notre tour dévaluer 3 fois. C'est une loi à laquelle nul n'échappe. Un pays dont la hausse des prix dépasse celle de ses voisins est condamné à dévaluer d'une façon ou d'une autre. Or, nous n'avons pas voulu et nous ne voulons pas isoler la France de la communauté européenne dont nous sommes partie prenante. La séparer du mouvement qui porte cette Europe à devenir enfin l'un des grands partenaires du monde. J'ai chargé M. Pierre Mauroy de mener cette action. Il a constitué son gouvernement dans cet objet. Ce que j'attends de lui n'est pas de mettre en œuvre je ne sais quelle forme d'austérité nouvelle, mais de continuer l'œuvre entreprise adaptée à la rigueur des temps pour que nous sortions au plus vite du creux de la tempête.
Nous ne voulons pas isoler la France de la communauté européenne. Voilà, ça c'est le vœu de François Mitterrand. François Eckhall, cette volonté, elle a eu un prix selon vous ?
Non, je pense qu'il a eu raison de le faire. Ça l'a conduit à mener à une politique qu'on a après appelée dans les années 80 de désinflation compétitive, qui a consisté à essayer de modérer l'évolution des salaires et des prix, de réduire les déficits. On est passé à d'une économie très très réglementée. Je rappelle quand les Français qui n'étaient pas encore nés à l'époque ne s'en souviennent pas et ne le savent peut-être même pas, mais c'était une époque où pour voyager à l'étranger, il fallait avoir un carnet de chambre. Vous pouviez changer 100 francs en monnaie pour aller voir votre famille à l'étranger, mais pas plus. C'était hyper réglementé. Donc vous aviez des contrôles comme ça dans tous les domaines, contrôle des prix, contrôle des changes, contrôle du crédit bancaire, etc. Donc au cours de ces années-là, on a levé ces contrôles pour remplacer ça par une politique de la concurrence, notamment à partir de 1986. Et le résultat était là. Je dis souvent que l'inflation a été vaincue au cours de cette décennie quand l'administration a arrêté de contrôler les prix. Donc l'administration a arrêté de contrôler les prix dans les années définitivement en 86 et l'inflation est depuis cette époque jusqu'à ces deux dernières années est restée très modérée. Et le déficit commercial, on a fini par le résorber. Au début, ça a été long, c'était une politique qui a été longue, qui a été difficile, mais au début des années 90, on a retrouvé un excédent de nos échanges extérieurs. Donc c'est une politique qui a payé, donc qui a été difficile, douloureuse à court terme, mais qui sur le moyen long terme a payé. Je pense que Delors avait raison. Et heureusement que Mitterrand l'a suivi.
Alors justement, vous parlez de politique douloureuse. En mars 83, Mauroy est chargé de former un nouveau gouvernement. Ce sera son troisième et dernier, puisqu'il durera jusqu'en juillet 1984. Mais ce dont on n'a pas parlé non plus, Fabien Éloire, c'est comment sont reçues toutes ces mesures dans l'opinion publique. Ce sont quand même des mesures qui impactent directement les ménages. Je pense notamment à l'emprunt forcé. Est-ce qu'il y a eu quoi, l'idée d'un espoir déçu, d'un rêve qui s'efface face aux puissances du marché? Comment c'est perçu finalement parmi les électeurs, notamment, qui avaient cru en cette candidature de François Mitterrand?
Alors, j'ai pas d'enquête et de chiffres à donner là-dessus. C'est juste, si on en parle encore aujourd'hui, c'est que j'imagine que ça a eu cette déflagration qui aujourd'hui nous pousse encore à en parler et à faire de ce moment une sorte d'événement un peu fondateur, ou de parler de ne serait-ce que de tournant, et donner un nom à cet événement, c'est déjà quelque chose. Donc ce qui se cristallise certainement, c'est la fin ou le début d'une rupture à l'intérieur du Parti socialiste, qui va mettre évidemment très longtemps, et parce qu'il va se passer beaucoup de choses entre-temps, mais peut-être une rupture à l'intérieur du parti sur les questions économiques, parce que tout ce qu'on raconte là aujourd'hui, c'est aussi le fruit de controverses qui sont à la fois des questions économiques, mais aussi des questions politiques. Comment on fait face à telle ou telle situation? Quel choix on peut faire, quel arbitrage on va réaliser.
Et comment on instrumentalise aussi potentiellement des données économiques? Il y a quelque chose que vous faites dans un de vos articles, Fabien Éloire, et qui est, je trouve, assez intéressant, c'est de regarder la façon dont on a interprété justement ce moment et la façon dont cette interprétation-là a évolué entre la fin des années 80 et les années 2010. Beaucoup de gens, effectivement, se sont intéressés à ce moment du tournant. Certains le voient comme une erreur, alors notamment avec cette fameuse politique de relance qui aurait provoqué de façon quasiment mécanique la rigueur, d'autres comme un tournant d'un point de vue politique. Comment cette évolution-là se caractérise, selon vous, Fabien Éloire?
C'est-à-dire se caractérise?
Dans le sens où vous dites qu'il y a une idée. Enfin, qu'est-ce qui vient déterminer le regard qu'on porte sur le tournant? Vous dites que dans les années 80, c'est l'erreur qui a été commise, qui est soulignée. Un peu plus tard, dans les années 90, ce sont les facteurs exogènes qui sont mis sur le devant de la scène. Qu'est-ce qui fait qu'on change de regard au fur et à mesure sur ce tournant?
Oui, alors est-ce qu'on change vraiment de regard, parce que on a l'impression quand même que les politiques elles se répètent un petit peu quand même si la situation change, les paramètres qu'on regarde continuent à être les mêmes. On disait bon, la dette publique on la regardait pas vraiment comme aujourd'hui dans les années 80, mais on regardait le déficit. Comme il y a eu cette politique, cette monnaie européenne, c'est vrai qu'on n'a plus, comme on pouvait l'avoir, cet outil, cet instrument de la politique monétaire. Donc, ce que j'ai l'impression de comprendre, c'est que la politique économique, on l'amène aussi en fonction des indicateurs qu'on souhaite regarder, et la façon aussi dont on les regarde, c'est quelque chose qu'on a essayé de montrer dans l'analyse du tournant, c'est comment certains indicateurs sont mis en avant plutôt que certains autres, puisque je vous disais que certains conseillers voyaient bien que la relance par l'activité avait des effets sur par exemple l'amélioration de la situation du chômage et même de la croissance. Mais c'est vrai que c'est jamais des effets qui sont très clairs, et parfois ils sont aussi différenciés, c'est-à-dire que vous avez un différentiel de temps entre la mesure et les effets qu'elle a. Typiquement, une dévaluation va avoir au départ, au moment où on dévalue, un effet négatif sur le déficit commercial, mais ensuite le déficit se rétablit. On voit très bien rétrospectivement, avec l'analyse des chiffres qu'on peut avoir aujourd'hui, que ça a été le cas. Mais il est vrai que les acteurs, quand ils sont immergés, et on parlait au début de l'émission du contexte, quand ils sont immergés dans le contexte, ils ne voient pas forcément. Et c'est là aussi que se joue la controverse. C'est-à-dire que un camp va finir par prendre le pouvoir, on va dire, sur la controverse, et puis réussir à imposer sa solution.
François Eckhall, très rapidement pour conclure cette émission en une petite minute. On a bien compris, ce tournant de la rigueur a été majeur. S'en sont suivis d'autres plans de rigueur. On parle notamment en 2011 de celui de François Fillon, et évidemment aujourd'hui avec la coupe budgétaire de 10 milliards d'euros annoncée par Bruno Le Maire. Est-ce que les autres plans de rigueur qui ont suivi sont à la hauteur de 1983?
Alors, je ne sais pas s'ils sont exactement, je n'ai pas comparé leurs ampleurs respectives, mais on a alterné en France entre des phases, je dirais, plus de relance et des phases plus de rigueur. Des plans de rigueur, on en a eu un très important au milieu des années 90, qui a été le plan Juppé. Là, il s'agissait plus d'essayer de maintenir la parité du franc. Enfin, si, il s'agissait en fait de préparer l'euro à l'époque. Et donc, on a eu des mesures quand même assez importantes à ce moment-là. Et puis après, en effet, on a eu des mesures de rigueur, entre guillemets, en 2011-2012, commencé par Fillon, poursuivi sous Hollande, avec notamment beaucoup de mesures fiscales. Et puis, peut-être amorce-t-on de nouveau un tournant de la rigueur.
C'est ce que nous continuerons à suivre ici à Entendez-vous l'écho. Un grand merci à tous les deux, Fabien Éloire et François Eckhall, d'avoir participé à cette émission. Rendez-vous sur le site de France Culture pour retrouver toute la documentation nécessaire et les références de vos articles respectifs, ainsi que tous les épisodes précédents qui sont disponibles à la réécoute. Et c'est direction l'application Radio France pour retrouver l'émission en podcast. Merci à Léa Sabourin qui a programmé cette émission et à Diane Devancé qui l'a préparée. Merci également à toute l'équipe d'Entendez-vous l'écho, Laurence Jeunepin, Anouk Millot, Léopold de Thiévin et Inès Gender.